RFI 8h, à Paris 6h, temps universel. Notre édition spéciale dans quelques minutes après les résultats du premier tour des législatives en France. On y consacre une large part de votre journal, Gaëtan Plenet. Bonjour.
Bonjour. Le Rassemblement National en tête, le Nouveau Front Populaire de gauche deuxième, le camp présidentiel derrière, les consignes de vote affluent pour le second tour afin d'empêcher une arrivée au pouvoir du RN qui inquiète aussi les Européens. Réaction à suivre dans ce journal. Et qualifié veut-il forcément dire encore candidat? La question se pose ce matin dans les partis politiques et il faudra y répondre avant demain soir. C'est le grand débat depuis les résultats du premier tour. Je le rappelle, le Rassemblement National est arrivé en tête avec quasiment un tiers des suffrages, suivi par l'Alliance de gauche du Nouveau Front Populaire, plus de 28% des voix, et la liste présidentielle Ensemble avec plus de 21%. Voilà pour le podium au niveau national. Mais qu'en est-il si ce podium se traduit en triangulaire? C'est souvent le cas dans plus de 300 circonscriptions. Il reste 3 candidats pour le second tour. Et là, les stratégies divergent. À gauche, on se dirige a priori vers un désistement systématique si le candidat est arrivé troisième et que c'est un candidat RN qui est en tête. Dans le camp présidentiel, c'est un petit peu plus flou. La consigne est visiblement la même, mais on ne sait pas si ça s'appliquera aux candidats du Nouveau Front Populaire, notamment ceux issus des rangs de la France Insoumise.
Et pour ce qui est des Républicains, Gaëtan, pas de consigne du tout.
Oui, enfin, les Républicains version sans Éric Ciotti, ceux qui ont refusé de rejoindre l'alliance qu'il a faite avec le RN et qui représentent à eux seuls un petit peu plus de 6,5% des suffrages. Pour la version avec Éric Ciotti et donc avec le RN, on est un petit peu moins de 4%. Et là, il y a bien une consigne. On part à Nice, fief d'Éric Ciotti. Bonjour à vous, Raphaël Delvolvé.
Bonjour Gaëtan.
Éric Ciotti, toujours président de facto des LR, hein, on le rappelle. Et il appelle tous les électeurs du parti à le rejoindre au second tour.
Oui, et le député sortant a trouvé la formule choc. Il accusait dès hier soir Emmanuel Macron, le président, de vouloir forger une alliance contre nature avec la France insoumise. Et vous voyez, Éric Ciotti essaie de monter une sorte de contre-front anti-extrême gauche. Ça devrait fonctionner ici dans le sud où l'alliance LR-RN est plutôt bien accueillie. Mais à l'échelle nationale, c'est plus incertain. Et le comportement des électeurs LR sera justement l'une des clés du second tour. Il pourrait permettre au RN d'obtenir la majorité absolue, mais aussi de l'en empêcher. LR, canal historique, est qualifié dans une soixantaine de second tours. Et puis les sondages montrent que c'est à peu près kiff-kiff, moitié-moitié entre les électeurs LR soutenant ou refusant un rapprochement avec le RN. On comprend mieux les appels pressants d'Éric Ciotti, qui a prévu d'engager des contacts avec ses anciens amis dès aujourd'hui dans son entreprise de dynamitage de la fameuse digue, autrefois étanche entre droite et extrême droite. Il obtient déjà une aide. François-Xavier Bellamy, resté à LR, mais qui fait comme lui, il identifie l'extrême gauche comme le principal danger.
Merci Raphaël Delvolvé, en direct depuis Nice avec les moyens techniques d'Adrien Toureau. Et le second tour dimanche, ce sera l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la 5e République française. Voilà ce qu'a dit le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui vise un poste de Premier ministre. Et ce scrutin, il est très largement scruté à l'international. On rejoint notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Herry. Jean-Jacques, quelles réactions européennes ce matin au lendemain du premier tour?
Alors, pas de réaction. Hein. Les institutions européennes ne vont certainement réagir qu'après le second tour. D'ici là, c'est silence. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des craintes. Ces craintes, ce sont celles induites par le partage du pouvoir européen dans le cadre d'une cohabitation avec un chef d'État qui sera politiquement forcément affaibli, même s'il continuera de siéger au Conseil européen. Cela a déjà commencé d'ailleurs sur la question du futur commissaire européen français. Traditionnellement, c'est le président français qui propose un nom. Emmanuel Macron a ainsi déjà fait savoir qu'il voudrait voir Thierry Breton reconduit dans le nouveau collège des commissaires. Mais cette fois-ci, Jordan Bardella, qui pourrait devenir Premier ministre si le Rassemblement national obtenait une majorité absolue, a annoncé que lui aussi proposerait un candidat. Et donc, on pourrait assister ici à un premier bras de fer. Et plus prosaïquement, une partie du programme de l'extrême droite est clairement anti-européen et pourrait remettre en cause beaucoup de choses dans une opposition frontale à l'UE. Parmi les sujets qui inquiètent, il y a celui du soutien à l'Ukraine, notamment du fait de la proximité longtemps affichée du RN avec la Russie. Et puis, il y a également une grande interrogation. Que se passerait-il d'aventure si la France décidait de ne plus respecter ses engagements européens, notamment budgétaires? Est-ce qu'il serait alors aussi facile de sanctionner un poids lourd européen comme la France, par exemple en la privant de fonds européens, que de sanctionner un pays comme la Pologne ou la Hongrie? Là encore, on entre dans l'inconnu et l'inconnu, ça fait peur à Bruxelles.
Jean-Jacques Herry, en direct de Bruxelles, justement, et on continue à décrypter les résultats et les réactions après ce premier tour des législatives en France, édition spéciale, juste après ce journal.
La France attend le nom de ses députés, Gaëtan, la Mauritanie, celui de son président.
Et ce devrait être annoncé officiellement dans la matinée, alors que la commission électorale du pays a terminé, ça y est, le dépouillement et la compilation de 100% des suffrages exprimés samedi lors du premier tour. Et selon les résultats provisoires, le président sortant, Mohamed Oulcher El Razouani, est en tête, mais son principal opposant a déjà fait savoir qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin. Léa Lisa Westerhoff et notre envoyée spéciale Anne Wakchut.
Sur la base de l'ensemble des bulletins de vote dépouillés, Mohamed Oulcher Razouani détient 56,12% des voix. Voilà ce qu'on peut lire sur la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante, MyCENI. Des résultats provisoires officiels qui doivent encore être proclamés par le président de la CENI dans la journée. En deuxième position, l'opposant et militant des droits de l'homme Biram Dahabeid avec un peu plus de 22% des voix. Pour celui qui est déjà arrivé second lors de la dernière présidentielle, ce résultat est faux et manipulé par une commission électorale entre les mains du pouvoir, selon lui. Biram Dahabeid affirme entre autres que dans 700 bureaux de vote, il y aurait eu des cas de bourrage d'urne. Hier, il a appelé ses militants à des manifestations pacifiques pour contester ces résultats. Peu de temps après ses déclarations, le siège du parti de Biram Dahabeid a été encerclé par la police. L'accès à son QG bouclé par deux véhicules des forces de l'ordre et des policiers anti-émeutes. Et dans une conférence de presse tardive, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a affirmé qu'aucune action de nature à perturber la tranquillité des citoyens ne serait tolérée. Léa Lisa Westerhoff, Nouakchott. RFI.
Pas besoin d'élection, là c'est une présidence tournante, celle du Conseil européen.
Et c'est la Hongrie qui prend le relais à partir de ce lundi et pour les 6 prochains mois. Alors concrètement, ça veut dire que c'est un président eurosceptique, à savoir Viktor Orban, qui va assurer présider les sommets des dirigeants de l'UE. Ça ne manque évidemment pas d'ironie. Alors le chef du gouvernement belge, Alexandre De Croo, dont le pays occupait le poste jusqu'à maintenant, se risque à un petit conseil lui-même teinté d'ironie. Écoutez, là c'était jeudi à l'issue d'un sommet de l'Union européenne.
Être président du Conseil de l'Union européenne, ça ne veut pas dire que vous êtes le chef de l'Europe. Ça implique que vous êtes celui qui doit faire des compromis. Et être dans la position de celui qui cherche des compromis, ça peut être intéressant, au moins une fois dans votre vie. C'est ce que je conseille vraiment à M. Orban.
À des propos recueillis par Julien Chavannes, la Hongrie, elle a promis par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, c'était il y a quelques jours, d'agir, je cite, en tant que médiateur impartial, en toute loyauté avec l'ensemble des États membres. 43 Palestiniens tués ces dernières 24 heures à Gaza, selon les autorités locales, alors que des frappes ont à nouveau visé la ville de Gaza, où l'armée israélienne mène depuis plusieurs jours une opération. Couvre-feu sur l'île caribéenne de Grenade, état d'urgence sur celle de Togabo. La région se prépare à l'arrivée de Beryl, ouragan de catégorie 4, soit extrêmement dangereux.
Le sport et les routes italiennes qui portent décidément chance aux cyclistes français.
Oui, alors on verra si ça se vérifie pour la troisième étape du Tour de France ce lundi, la dernière de l'autre côté de la frontière italienne. En tout cas, hier, c'est le jeune français Kevin Vauclin qui est arrivé le premier à Bologne au lendemain de la victoire inaugurale de son compatriote Romain Bardet, dont c'était le premier tour de, dont c'est le dernier Tour de France avant la retraite l'an prochain et qui s'est offert le luxe d'un maillot jaune qu'il n'avait encore jamais porté. Il ne l'a pas gardé bien longtemps. Dès hier, le grand favori slovène Tadej Pogacar l'a ravi des épaules du coureur français, mais qu'importe pour Romain Bardet qui n'a pas boudé son plaisir. Reportage de Thomas de Saint-Léger.
Ça va être dur, je pense qu'aujourd'hui je vais me battre, mais je sais que c'est un épisode, donc je vais essayer d'en profiter de chaque minute.
Avec 15 petites secondes d'avance sur les favoris, une bataille annoncée sur les hauteurs de Bologne, Romain Bardet savait ses jours en jaune compter, et pourtant à l'arrivée le français perd sa tunique pour 6 secondes seulement.
C'est dommage, et à la fois je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus, donc très belle journée, j'ai eu aucun stress, j'en ai vraiment profité, c'est quand même une expérience extraordinaire.
Un moment à part, un épisode comme il dit de 24 heures partagé avec ses coéquipiers, en particulier Warren Barguil, camarade de Chambray.
On avait le casque jaune parce qu'on était la meilleure équipe hier, donc forcément c'est quelque chose de spécial et c'est toujours agréable de dormir avec le maillot jaune.
Avec un coureur référence aussi, devenu un peu plus samedi un modèle, une source d'inspiration pour ses jeunes compatriotes, Kevin Vauclin, 23 ans, vainqueur à Bologne pour son deuxième jour sur le Tour de France.
Un exemple de professionnalisme et de mec qui lâche rien. Et hier, j'étais tellement heureux pour lui qu'il gagne et qu'il ait ce maillot jaune qu'il a tant convoité des années. Et voilà, j'ai essayé de limite suivre son exemple aujourd'hui et saisir l'opportunité comme il a pu la saisir hier.
Kevin Vauclin d'ailleurs, salué, félicité par Bardet juste après l'arrivée. Il a de la classe, ce Romain, empereur d'un jour, grand seigneur toujours. Thomas de Saint-Léger, Bologne, RFI.
Et puis on suit les huitièmes de finale de l'Euro de football. Aujourd'hui, France-Belgique à 16h temps universel et puis Portugal face à la Slovénie 3h plus tard. 8h10 à Paris, édition spéciale législative en France.
Merci Gaëtan Plenet et à tout à l'heure.
Édition spéciale, élections législatives françaises. Nathalie Hamard.
L'extrême droite confortée, le camp présidentiel désavoué et la gauche qui veut croire à une alternance sur son programme. Le premier tour des législatives a livré son verdict en France. Au Rassemblement national hier soir, Marine Le Pen ne cachait pas sa satisfaction.
En démocratie, rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron.
Alors y aura-t-il une majorité absolue pour le RN ? C'est tout l'enjeu de la semaine qui s'ouvre. Chacun mobilise ses troupes. Au QG du nouveau Front Populaire, l'eurodéputé écologiste Mounir Satouri se dit confiant.
Bien sûr que j'y crois. Moi je suis un élu de la République. Je suis fier de l'être au vieux de M. Bardella. Je ne suis qu'un Français de papier. Ça c'est pas possible. Et on lâchera rien jusqu'à dimanche prochain.
La campagne pour le second tour est engagée. Rien n'est joué. Quelle majorité pour gouverner la France dans 8 jours ? Édition spéciale sur RFI jusqu'à 9h30. Et dans 20 minutes, des représentants des différents blocs politiques en lice seront ici en studio pour le RN, pour Renaissance, pour le Nouveau Front Populaire et pour les Républicains. Dorian Dreuil, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accompagner. Politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à l'Université Paris-Nanterre. Valérie Gasse, chef du service politique, est également avec nous. Bonjour Valérie.
Bonjour Nathalie.
On rappelle les chiffres. Le RN a 33% des voix, le Nouveau Front Populaire à 28%, Ensemble à 27%. On se rend tout de suite à Nevers, où vous vous trouvé Baptiste Coulon, Nevers, 30 000 habitants. L'extrême droite y a fait un score encore plus haut qu'au niveau national. 40% pour le candidat du RN. Ce matin, Baptiste, on est reparti en campagne déjà ?
Oui, complètement. On est même reparti depuis hier soir, j'ai envie de vous dire, du côté de la députée macroniste sortante. On établissait déjà hier le plan de bataille pour la semaine à venir, aller chercher les voix dans les petits villages non loin de Nevers, ces voix qui sont allées largement au RN hier, et à Charles-Henri Gallois, arrivé en tête. Peu connu des habitants, hein, contrairement à la députée sortante du camp présidentiel, mais en fait l'ancrage local n'est plus un argument pour beaucoup d'électeurs ici, comme Pascal par exemple, rencontré tout à l'heure, qui a voté hier pour ce candidat Rassemblement National.
Moi, dans ma tête, c'est Fondation, le Rassemblement National. Monsieur Gallois, je ne connais pas, c'est tout.
Mais donc du coup, vous avez quand même voté pour ce monsieur ?
Bah oui, s'il est passé Rassemblement National, oui. Après, je ne connais pas, c'est bien pour lui, quoi.
Vous avez d'abord voté en fait pour un parti que pour une personne.
Un parti, voilà.
Un parti qui prospère gagne du terrain dans ce département rural où le taux de chômage des jeunes et des seniors est très fort, où certains services publics disparaissent et où, comme Pascal, ils sont nombreux à assumer un choix, celui de renverser la table.
C'est tous les Français qui veulent du changement.
Mais pourquoi le changement, ça n'aurait pas été par exemple de voter pour les partis de gauche qui se sont alliés ?
Non. Ça fait 20 ans que ça dure. Il n'y a jamais eu des choses concrètes. Que ce soit de gauche, de gauche, de droite et tout, les gens n'y arrivent plus. Voilà, c'est la vérité en plus.
Donc en fait, ce parti, le Rassemblement National, pour vous, il représente l'espoir, un espoir ?
Bah oui, après on peut se tromper. Hein.
Alors inutile de vous préciser qu'au second tour, il ne votera pas pour la candidate du camp présidentiel. 28% ici pour Perrine Goulet, très loin donc du RN. Le siège qu'elle occupe depuis 2017 est plus que menacé. Quant au candidat de la gauche, arrivé troisième, il s'est désisté. Nathalie, électrice du Nouveau Front Populaire, comprend le vote RN, mais le déplore et se dit désabusé.
C'est vrai qu'il y a eu très clairement un abandon de la ruralité. C'est vrai que les services publics ont été démantelés. Donc je comprends que les gens se sentent abandonnés, délaissés, mais pour autant, comment peuvent-ils imaginer que des valeurs d'extrême droite puissent apporter des solutions ? Je suis, je dirais, presque en état de sidération et je suis très inquiète pour la suite.
Les candidats repartent donc en campagne dès ce matin et Nathalie l'assure, elle glissera un bulletin Perrine Goulet dans l'urne pour faire barrage au RN.
Baptiste Coulon en direct avec nous de Nevers. Merci à vous, Dorian Dreuil. Participation record hier, 66,7% selon les chiffres définitifs. L'extrême droite domine les débats, on vient de le dire. Oui. Ça signifie que la participation a profité en fait à tout le monde.
Oui, tout à fait, et c'est les deux enseignements de la journée d'hier, c'est-à-dire que ce premier tour, d'une certaine manière, est historique à de nombreux points de vue, quand on regarde un peu finement les données. Du point de vue de la participation, effectivement, on a observé un sursaut démocratique, une remobilisation très forte en revoyant des taux qu'on n'avait plus connus depuis 97, hein, ce qui est une bonne chose pour notre vitalité démocratique, et ce qui montre aussi que quand il y a un enjeu politique sur une élection législative et qu'elle n'est pas juste suivie de juste la suite d'une élection présidentielle, eh bien, oui, elle met de l'attention et donc elle mobilise.
Découplée donc du scrutin présidentiel, il y a encore plus d'enjeux.
Exactement, et ce qui traduit une forme de reparlementarisation de notre vie politique, notre vie démocratique. Et puis le deuxième enseignement, et vous l'avez dit, c'est les résultats du sorti d'urne, le nombre de voix qui donne un certain vertige politique. Et un mot qui était dit dans un des témoignages que je trouve assez intéressant, c'est celui de sidération. Il ne faut pas, je pense, sous-estimer les effets de sidération dans l'opinion politique. Celui qu'on avait vu au soir de la dissolution, hein, qui avait aussi créé,
qui était déjà très fort,
une place de sidération. Et là, le résultat d'hier, tout ça dans un moment où on a le sentiment que la vie démocratique s'accélère, se réduit, que le temps est court finalement dans des campagnes éclairs, dans des moments de digestion des informations et de cette sidération qui est peut-être très rapide et qui pousse à la mobilisation.
Et la question aussi, c'est qu'est-ce qu'elle peut produire aussi dans un contexte où il y a énormément de triangulaires. On va y revenir. Valérie Gasse, d'abord peut-être.
Oui, s'il y a une chose que Emmanuel Macron a réussi avec cette dissolution, c'est en effet à remobiliser les Français et à leur donner envie d'aller voter. Alors forcément, le résultat n'est peut-être pas celui qu'il attendait. Il voulait une clarification. On verra ce que ça donne dimanche prochain, mais en tout cas, le premier tour a déjà été assez clair, avec un score très important, historique, du Rassemblement National au premier tour d'une élection législative. L'Alliance des Gauches, qui arrive deuxième avec un bon score quand même si certains sont déçus à gauche, aurait imaginé titiller le Rassemblement National, mais enfin, tout ça est assez en phase avec les sondages. Et puis, une majorité présidentielle loin derrière, à moins de 21%, ce qui est une remontée par rapport aux élections européennes, où on était à moins de 15, et c'était la baffe qui avait incité Emmanuel Macron à dissoudre, mais néanmoins un score...
Une descente par rapport à 2022.
Une descente par rapport à 2022, qui laisse présager un nombre très restreint de députés de l'ex-majorité. Et donc ça va être très difficile à vivre une fois que les résultats de la semaine prochaine seront tombés.
Alors au point où on en est, Dorian Dreuil, il y a énormément d'incertitudes. Il est impossible de prédire quel sera le visage de l'Assemblée nationale dimanche soir prochain. On sait que l'enjeu, c'est de savoir si le RN peut aller jusqu'à 289 sièges. De quoi est-ce que ça va dépendre ?
Alors effectivement, il faut raison garder et regarder les projections qu'on a, notamment en nombre de sièges, avec beaucoup de prudence, parce que une incertitude qui pèse, c'est la question des triangulaires. On vient d'en parler. Tous les ingrédients étaient réunis.
Il y en a plus de 300. Il y en avait 8 en 2022.
Et une en 2017. En 97, c'est un moment où on avait connu aussi beaucoup de triangulaires, on était autour de 90. Donc ces triangulaires, la configuration de ces triangulaires, ça va beaucoup évoluer d'ici demain à 18h. Mardi 18h, c'est le moment où le dépôt des listes pour le deuxième tour. Et donc ce qu'on va observer là dans les deux jours qui viennent, c'est un moment un peu suspendu où on va regarder qui se désiste ou pas, qui reste en duel et qui reste en triangulaire ou en quadrangulaire. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Et à partir de là, on pourra un peu plus finement projeter les intentions de vote et préfigurer un peu plus la composition de l'Assemblée nationale. Mais alors, ce qui est sûr, c'est qu'après, la campagne, elle se rouvre. Et c'est encore un scrutin où les jeux sont assez ouverts, finalement, dans les duels, notamment.
Ouverts. Il y a eu, malgré tout, Valérie, hier soir, des prises de position très claires à gauche. Hein. LFI, socialistes, verts, qui appellent leurs candidats à se désister systématiquement, s'ils sont donc en triangulaire, en troisième position, pour faire barrage au RN. Dans le camp présidentiel, c'est un petit peu moins clair. Hein. Il y a plusieurs nuances d'appel au désistement.
Voilà, il faut écouter, lire chaque mot des déclarations pour essayer de se faire une idée. Alors, on a eu Gabriel Attal qui a dit « pas une voix au RN ». Alors, sur le principe, tout le monde est d'accord, pas une voix au RN, en appelant à se désister pour les candidats des forces républicaines. Alors là, déjà, c'est qui sont les candidats des forces républicaines ? On a vu une campagne où la majorité, ex-majorité sortante, faisait campagne contre les extrêmes, de gauche aussi, ciblant LFI. Donc la question va être de savoir sur le terrain si quand c'est un candidat LFI qui est en deuxième position dans une triangulaire devant un candidat Renaissance ou Horizon, est-ce qu'ils vont se désister quand même? Pour les socialistes et les écologistes, ça devrait être beaucoup plus facile pour les candidats du camp présidentiel de se désister. Et d'ailleurs, Édouard Philippe a donné un autre son de cloche oui. dès hier soir qui est moins flou que Gabriel Attal. Il a dit ni RN ni LFI, on reste sur les bases de la campagne.
Donc Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre du parti Horizon, voilà, verrait bien jouer un rôle dans ce centre droit,
qui a déjà pris un petit peu ses distances à l'occasion de cette dissolution. Absolument. En envoyant ses candidats sous sa bannière à lui et pas sous la bannière Ensemble la République qui réunit les autres alliés autour d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est deux jours, c'est un temps suspendu, mais ça va être un temps très 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 actif hein, quand même, où ils vont décortiquer les circonscriptions, les candidats et regarder ça au microscope pour savoir finalement où on les laissera, où on les enlèvera. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il va y avoir aussi des candidats du camp présidentiel qui sont deuxièmes et qui vont aussi bénéficier. Donc ça va se rééquilibrer peut-être pas, mais en tout cas évoluer la configuration finale.
Il y a quand même une question importante, Dorian Dreuil, ces consignes de vote, est-ce qu'elles ont un sens et est-ce qu'elles ont un poids quand on est en crise quand même politique comme on l'est en ce moment en France?
Sur les électeurs, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a moins d'impact dans les consignes de vote du côté des gens qui assez naturellement souhaitent pas se faire ou suivent moins facilement celle des partis. L'impact à suivre, c'est est-ce que la ligne des partis politiques à l'échelle nationale est respectée par les candidates ou les candidats à l'échelle de la circonscription. C'est pas dit partout, c'est pas toujours certain, et en fait c'est ça qui est surtout assez déterminant. Mais c'est vrai que pour revenir sur la question de la majorité présidentielle, on oublie parfois que c'est une coalition elle aussi, et que à l'intérieur vivent des identités politiques différentes, des agendas aussi différents.
On l'a compris hier.
et aussi, on a vu, pour aussi le souligner, certaines candidatures qui n'ont pas hésité à se désister en troisième position pour des candidats, et notamment, par exemple...
La ministre Sabrina Agresti-Roubache, notamment à Marseille, qui a tout de suite dit qu'elle se désiste.
Ou Alban Branland pour
face à François Ruffin.
Un mot avant qu'on parte pour Dakar, rejoindre notre correspondante Juliette Dubois. Dorian Dreuil, le Rassemblement National a-t-il des réserves de voix ou a-t-il fait le plein hier? De quel report pourrait-il bénéficier pour arriver à ces 289 sièges, majorité absolue à l'Assemblée nationale?
Ça va être assez difficile à observer parce que dans le cadre des duels, on risque de voir plus des mobilisations contre que de voir des candidatures augmenter un peu le socle électoral. Là, l'enjeu pour les partis, le Rassemblement national comme d'autres, ça va être de garder sa base mobilisée et aussi mobiliser contre front.
Le premier tour des élections législatives françaises. Nathalie Hamard.
Édition spéciale jusqu'à 9h30 au lendemain de ce premier tour des législatives qui a placé, je le rappelle, le Rassemblement national en tête à 33% des voix, le nouveau Front populaire de gauche à 28% et ensemble le camp présidentiel à un peu plus de 20%. Comment sont perçus au Sénégal les résultats de ces législatives, la progression du Rassemblement national? On rappelle que l'an dernier, là-bas, la visite de Marine Le Pen avait provoqué un tollé. Juliette Dubois, notre correspondante, est allée discuter avec un groupe d'amis au sein duquel, vous allez l'entendre, les points de vue sont contrastés.
Sur la plage, Ibrahima Diop et ses amis prennent le thé. L'actualité française semble loin, mais tous ont entendu parler du Rassemblement national et des élections dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le score historiquement élevé du Rassemblement national ce soir ne les choque pas.
Moi je me dis, au pays, les citoyens, si c'est les citoyens qui ont voté pour eux, c'est pas un problème. Moi, on est dans un monde que peut-être... Il y a un grand changement.
Donc peut-être que les Français aussi veulent un nouveau changement, nouvelle ère. Puisque Macron, je ne sais pas maintenant, c'est comme Macky Sall dans le passé.
Daouda, lui, est même admiratif de Marine Le Pen.
Je me suis dit que si toutefois que Marine Le Pen gagne, pour moi, c'est bien pour la France. Parce que Marine Le Pen, c'est une femme qui aime la France, qui aime le développement français.
Modou, maître nageur, apprécie aussi le côté souverainiste du RN, mais le discours du parti sur l'immigration le fait tiquer.
Je l'ai une fois entendu, il disait pratiquement comme si les immigrés n'ont pas quoi apporter en France. Ils se trompent parce que les immigrés qui sont là-bas, ils font le travail que le peuple français ne font pas. Ouais, dans les maisons retraite.
Ibrahima, projeteur en génie civil, part s'installer en France cet été et relativise l'idée d'un futur gouvernement RN.
Je ne suis jamais inquiet parce que je n'ai pas un objectif pour dire que oui, je veux rester en France, des trucs comme ça. Moi, je suis bien dans mon pays. Si je ne sens pas bien d'être en France, il y a d'autres pays qui sont là.
En visite à Dakar en 2023, Marine Le Pen avait évoqué l'idée d'un co-développement euro-africain. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Dorian Dreuil, on vient de l'entendre, le discours du RN sur l'immigration choque. À Dakar, les positions souverainistes, en revanche, séduisent parce qu'elles sont en quelque sorte dans l'air du temps, en Europe et ailleurs dans le monde en 2024.
Il y a effectivement dans le monde une fièvre populiste et souverainiste qui gagne du terrain. En même temps, d'ailleurs, et c'est intéressant à observer, que les démocraties s'affaiblissent partout dans le monde. On n'a jamais compté autant, enfin si peu de démocratie versus des régimes autocratiques ou la fragilisation de régimes démocratiques que ces 20 dernières années. C'est deux dynamiques qui vont de pair. Le populisme amène à de l'autocratie ou en tout cas de la fragilisation des démocraties. Et on voit bien qu'il y a à l'œuvre partout sur la planète ce que Giuliano D'Ampoli appelle les ingénieurs du chaos qui surfent justement sur les thématiques en usant des outils et des nouvelles technologies, notamment ceux de la désinformation, ceux de la malinformation, pour surfer sur ces sentiments-là.
Ouais, et on verra tout à l'heure comment cette élection est perçue en Allemagne. Il nous reste quelques minutes, Valérie Gasse, Dorian Dreuil, pour évoquer les scénarios de la semaine prochaine, malgré tout. Première hypothèse, majorité absolue pour le RN. Dans ce cas, Jordan Bardella est appelé à Matignon. On part sur une cohabitation de 3 ans avec Emmanuel Macron, du jamais vu.
Alors, j'aurais du mal, moi, à affiner des scénarios encore trop précis aujourd'hui. Peut-être celui vers lequel on se dirige, qui est à peu près certain, c'est celui d'une cohabitation, reste avec qui, comment. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est peut-être qu'on va rentrer dans un moment qui est très parlementaire, en fait, qui est inhérent à tous les régimes parlementaires et à toutes les démocraties parlementaires qu'on connaît, qu'on a autour de nous, c'est-à-dire au sorti du 7 juillet, en cas où personne n'a de majorité absolue, ce qui est quand même une hypothèse assez forte, c'est quelle coalition, qui gouverne, comment, quel contrat de gouvernement. Et c'est assez intéressant, c'est pas forcément dans la culture démocratique immédiate ou de ces dernières années en France, mais ça se passe comme ça partout autour de nous, avec voilà, cet intérêt qui est que ça répond aussi à une certaine exigence ou nouvelles exigences démocratiques de l'opinion, de voir
avec un affaiblissement du rôle présidentiel et une montée en force du Parlement.
Ah oui, tout à fait. Et là, le pouvoir, le centre du pouvoir, c'est inévitablement transmis à Matignon. Cette élection-là, c'est celle des premiers ministrables.
Oui, ce qu'on peut revenir sur la question de départ, c'était majorité absolue, 3 ans de cohabitation avec Jordan Bardella.
C'était la première hypothèse.
Mais
Dorian Dreuil
l'a déjà relativisé. Moi, je la relativiserais différemment. On n'est pas sûr que ça durera 3 ans. Parce qu'au bout d'un an, Emmanuel Macron peut toujours dissoudre de nouveau l'Assemblée. On peut imaginer que l'idée arrivera dans sa tête si ça devient trop compliqué avec un Jordan Bardella qui, on le sent, a envie d'une cohabitation dure. Deuxième chose, en effet, un régime plus parlementaire et un président qui va devoir composer vraiment avec une assemblée, ce qu'il a déjà eu du mal à faire avec une assemblée où il avait la majorité absolue, et la majorité relative, c'est devenu compliqué. Mais là, il va y avoir même pas de majorité relative, une coalition avec des partenaires plus forts que lui, et une ex-majorité, un camp présidentiel lui-même, très divisé, même au sein de Renaissance, beaucoup de voix discordantes.
Merci Valérie Gasse et merci à vous, Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Une courte pause et notre débat politique à suivre dans RFI Matin.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les brûlures, comment évaluer leur gravité? Quelle prise en charge pour les grands brûlés?
Demain,
pourquoi se sent-on incompris? On attend vos témoignages.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout
à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles, est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Avec la metteuse en scène espagnole Angélica Lidl qui dérange la cour d'honneur en invitant démons et fantômes pour les funérailles du cinéaste Ingmar Bergman et Entrée des artistes, la nouvelle création d'Ahmed Madani qui réunit jeunes filles et garçons autour d'une question: pourquoi voulez-vous faire du théâtre?
Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.